Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Deuxième partie de cette émission hebdomadaire. Il y avait déjà eu une première partie d'une heure mercredi. Donc là, on fait la suite avec la partie NASCAR, exclusivement NASCAR, suite à cette course du Texas qui a été plus longue qu'un voyage lune-terre, mais bon, c'est pas grave. C'est ainsi, on a patienté pour voir une superbe course au Texas qui a fait bondir de joie Aloïs et Lilian qui vont encore m'accompagner sur cette émission. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et salut Aloïs.
Salut Geoffroy, salut Lilian et bonjour à tous.
Alors, comme je le disais en préambule, Lilian, une course magnifique au Texas.
Une plus.
Seule file au départ, une seule file à l'arrivée, mais sauf que entre temps, ça a un petit peu changé. Au début, c'était surtout pas de PJ One. Et puis à la fin, vu qu'il faisait très très chaud au Texas quand il s'arrêtait de pleuvoir, bah on avait la trajectoire, mais juste sur le PJ One.
Au final, enfin, pour résumer cette course, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps sur les ovales d'un mile et demi, surtout quand il y a du PJ One.
C'est de la merde. Alors,
c'est très intense sur les restarts, et puis après, bah, c'est terminé, quoi.
Intense sur les restarts? Non. C'est juste que les mecs ont pas assez de puissance moteur pour se séparer. Ils sont juste collés les uns aux autres pendant un tour. Et au deuxième tour, il y a l'aéro qui entre un tout petit peu en jeu, ça fait des différences, et puis après, t'as des murs d'aéro qui se dressent devant, derrière les pilotes, et puis après, c'est le bordel.
Il y a tellement de perturbations aéro que, ils arrivent pas à rattraper et à doubler, quoi.
Surtout en fait, à doubler. Ils arrivent à rattraper, mais pas à doubler.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on se croirait sur soit à la dégâts, soit revenu en 2005 en IRL. Faut choisir.
C'est un peu
un choisi, alors.
Moi, je dis IRL personnellement. Mais l'argument pour Talladega est tout aussi valable.
C'est vrai que c'est quand même malheureux. On est quand même sur une course de voiture et les gars, ils peuvent pas se doubler. C'était ce que je vous disais par message pendant la course. Bientôt, on sera en Formule 1. Va falloir doubler que dans les stands.
Et ce problème-là, Aloïs, on l'a eu au Texas, mais on l'a eu il y a presque deux semaines maintenant au Kansas. Et il n'y avait pas de PJ One.
Il n'y avait pas de PJ One. Mais on peut pas attribuer ça, enfin, cette nouvelle façon de courir au PJ One, mais bien plus aux différentes directives qui ont été instaurées par la NASCAR pour, entre guillemets, redynamiser les courses sur les ovales d'un mile et demi, ce qui a l'effet inverse, puisqu'ils ont réduit la puissance moteur. Comme ça, ils sont à fond dans les virages, et ils ont mis des magnifiques spoilers 90 de haut à l'arrière des pour créer de l'appui aérodynamique et une magnifique bulle derrière pour faire du draft.
Ouais, mais si je me souviens bien, après, peut-être que ma mémoire me fait défaut avec mon âge avancé, Atlanta, ça se passe bien. Le Kansas, au mois de juillet, ça s'était pas trop mal passé. Le Texas, depuis qu'ils ont refait les virages 1 et 2, ça ressemble plus à grand-chose de bien, mais c'est pas grave, on va y mettre une All-Star histoire que ça se passe encore plus mal. Qu'est-ce qui explique que, enfin, tu vois, le Kansas, en juillet, ça va à peu près, même ça va bien, et en octobre, ça va plus?
Déjà, il doit y avoir les conditions météo qui doivent jouer. Tu parlais d'Atlanta, ça, on le répète à chaque fois, je pense que c'est l'abrasivité de la piste qui joue énormément.
Justement, comme tu dis, Lilian.
Pardon ?
Je dis ça aussi à voir avec les pneus. On cherche une solution, enfin une explication à cette nouvelle façon de courir, mais les pneus ont peut-être une chose à voir, parce qu'on a vu combien d'arrêts à 2 ou 0 pneus au Texas, j'allais dire ce week-end, non, plutôt cette semaine. Franchement, à tous les arrêts, je pense qu'il y avait au moins 1, 2, voire 3 pilotes qui prenaient 0 pneu ou qui ne s'arrêtaient pas.
Et par contre, une chose qu'on voit pas souvent, je rebondis sur ce que tu dis, Aloïs, c'est que quand il y avait des changements à 2 pneus, c'était le train gauche, alors que d'habitude, c'est plutôt le train droit à l'extérieur.
Oui, très souvent, oui.
Il y a peut-être un effet pour mettre de l'essence, que la gravité, pour que l'essence descende plus rapidement dans le réservoir, puisqu'au final, ça s'est joué à l'essence. Kyle Busch nous en dira des nouvelles. Mais oui, c'est vrai que on marche un peu sur la tête. C'est le monde à l'envers, entre guillemets.
Mais de toute manière, il suffit de regarder le calendrier de l'an prochain pour ce. Enfin, la NASCAR a bien conscience qu'il y a un problème sur ce type de piste. Déjà, on n'est plus sur une piste d'un mile et demi pour la finale. On a plusieurs pistes qui sautent pour l'an prochain sur le calendrier 2021. Geoffroy, tu l'avais dit, on a essayé de trouver des solutions pour ce type de piste. Et puis en fait, ils se rendent compte que en mettant un produit bien spécifique sur la piste, ça change rien. On a fait des nouveaux packages aéro, ça change rien. Alors oui, les écarts sont peut-être moins élevés, mais au final, les pilotes ne peuvent pas se doubler. Et ça fait des années que ça dure. Et finalement, on a décidé de supprimer certaines pistes du calendrier, purement et simplement.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, la finale est plus sur un ovale d'un mile et demi. C'était quand même l'un des meilleurs ovales d'un mile et demi.
C'était pas ce que Aloïs s'appelait semaine dernière un D-shape ovale.
Oui.
C'est les D-shape ovales surtout qui posent problème à l'heure actuelle dans le calendrier NASCAR.
Bon, on a vu ça en deux semaines entre Kansas et Texas. La preuve par A plus B. Hein.
Atlanta étant l'exception.
Quand tu vois qu'ils ont même supprimé l'ovale de Charlotte, qui est l'ovale à domicile, on l'a remplacé par une course routière.
Ouais, mais au moins, tu vois, il peut pleuvoir tout ce qui peut. Au moins, on roule, quoi. On n'attend pas 3 jours.
En tout cas, oui, en Xfinity, ouais, ils ne se sont pas arrêtés, c'est clair.
Donc, parce que là, ça a quand même été très, très long, l'attente. Hein. Tous les jours, un petit peu, ça a coûté bien cher en carburant. Pour recharger en carburant les sécheuses. Et c'est vrai que ça a été quand même très très long cette affaire et la météo n'a clairement pas aidé avec une température tellement fraîche et une humidité tellement élevée que même s'il pleuvait pas, la piste était humide.
Du coup, Geoffroy, tu soulignais le très long drapeau rouge et tu as fait une petite préférence en introduction pour le retour de la Lune à la Terre. Ouais. La longueur du drapeau rouge officiel au Texas était de 72 heures, 28 minutes et 34 secondes. Je pense qu'on a battu un record.
Ouais, c'est ce que je me disais. On a dû battre un record, je pense, ouais.
Là, c'est vrai que ça commence à faire très, très long. Parce que c'est vrai que des fois, tu as des interruptions. Et il s'en est fallu de peu pour que... C'était lundi. Ça puisse repartir, lundi ou mardi. Ça puisse repartir. Ils avaient annoncé que les voitures en grille et tout... Et bim, c'est la pluie est revenue quoi. Il s'en est fallu de très peu.
Ah, étonnant hein, au Texas pourtant, ouais, c'est plutôt un état chaud selon moi, mais bon.
Ouais. Mais tout à l'heure, vous parliez des ravitaillements à deux pneus ou à zéro pneu. Il y en a quand même un qui a fait une belle boulette. Alerte boulette, alerte. On essaye de me sauver tant qu'on peut, mais je me tire une balle dans le pied parce que j'aime ça, c'est Chase Elliott. Hein.
C'était incroyable.
C'est un des gros perdants de la course.
Vous avez vu la gueule du pneu?
Un pneu en lambeau, un pneu à la corde, tout simplement.
Et il l'a enlevé 2 tours après n'avoir, je n'ai rien senti en rentrant dans les stands. Il y a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel là-dedans.
Ouais.
Parce que vu la gueule du pneu qui était totalement déchiqueté, qu'il est obligé de rentrer pour un deuxième ravitaillement, du coup, qu'il le fait tomber à un tour et il ne rattrapera jamais ce tour de retard,
ouais.
Ça fait quand même très cher l'erreur.
Ah, ça fait très très cher la boulette.
Ah, mais bon, quand on est dans les 8, il n'y a plus le droit à l'erreur, ou très peu.
Quand on est dans les 8, faut pas se louper. Il l'a fait. Il lui reste Martinsville. Comme 7 autres pilotes en fait pour se qualifier. Pour l'instant, on n'a que Joey Logano qui est qualifié. Il a fallu peu pour que Martin Truex Jr. se qualifie.
Mais il y avait un Kyle Busch sur son chemin.
Incroyable. Kyle Busch qui gagne une course cette saison en menant le plus grand nombre de tours et en n'ayant pas eu d'essai.
Je pense qu'on peut lancer un feu d'artifice à son honneur parce que là, c'était le running gag de toute la saison. On se disait, va-t-il arriver à gagner une course? Beaucoup de fois, c'était oui, mais non. Et là, c'était oui. Et honnêtement, la façon dont il a gagné était plutôt impressionnante. Je pense que c'était peut-être la meilleure voiture et ou le meilleur pilote du week-end, enfin, de la course de Texas du mercredi.
Mercredi, ouais. C'était le meilleur pilote du week-end le mercredi, quoi. Mais bon, s'il faut qu'on reporte de 72 heures toutes les courses pour que Kyle Busch gagne. Va falloir inventer des choses. Hein.
Mais en tout cas, 16e saison consécutive avec une victoire pour Kyle Busch.
Oui,
ça reste une belle stat.
Il s'en est fallu de peu, mais voilà.
C'est bon, il est tranquille.
C'est bon, il est tranquille, libéré, et puis il va pouvoir commencer 2021 pied au plancher dans 3 mois et demi.
Donc, on l'a senti, on a en interview d'après-course qu'il était quand même très ému de cette victoire et qu'il avait que ça en tête depuis des semaines, si ce n'est des mois.
Bah, il était tellement ému qu'il en a oublié de faire sa révérence, quoi. Il a fallu que, je crois que c'est Parker Kligerman qui faisait l'interview d'après-course, lui dise de faire sa révérence.
J'avoue, j'ai rigolé quand même.
C'était assez drôle, oui.
Ouais, il y avait de l'émotion, il y avait du soulagement. Il a, ouais. Pour une fois qu'il était souriant cette saison, fallait en profiter.
Donc bon.
Bon, en tout cas, on peut pas dire qu'il a volé cette.
C'est clair.
Cette victoire, hein, parce que comme tu dis, Geoffroy, il a mené le plus grand nombre de tours.
Il a gagné un segment.
Ouais, le dernier segment du coup est le segment 2.
C'est ça.
Et pendant le segment 2, il était quand même le plus rapide sur la piste avant d'avoir joué les dernières salves de course à la consommation. Et il a mené sa barque jusqu'à la Victory Lane pour le plus grand malheur de Martin Truex Jr.
C'est que lui, pour rappel, il s'était pris une pénalité de 20 points suite à une pièce, c'est pas non autorisée, c'est non déclarée en tout cas auprès des officiels de la NASCAR. Mm-hmm. Parce que là, quand on fait le point au classement, s'il n'avait pas perdu ses 20 points, il n'était pas très loin de Denny Hamlin et de Brad Keselowski.
Alors, s'il n'avait pas perdu ses 20 points, il serait devant Bowman et Elliott. Il serait à 16 points de Keselowski, donc il serait toujours pas qualifié, mais il ne serait qu'à 16 points.
Donc du coup, 18 d'Hamlin. Je crois qu'il y a 2 points d'écart.
Ouais, c'est ça, ouais, il y a 18 d'Hamlin, oui.
Donc, ouais, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises dimanche à Martinsville.
Si la course a lieu dimanche, non?
Oui, enfin, dimanche ou lundi ou mardi, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises.
C'est sûr. Je te vois, j'ai même pas encore regardé ce qu'ils nous annoncent en termes de météo pour Martinsville.
Hamlin est quand même grandement en danger alors que tout le monde l'annonce en finale avec Harvick. Si c'est quasiment fait pour Harvick, pour Hamlin par contre, c'est loin d'être l'assurance tout risque.
En grand danger, il débute quand même cette dernière course avec une longueur d'avance.
Ouais, il a quand même un petit matelas.
Ouais, bah si, pour rappel, s'il nous refait une course aussi pourrie qu'il nous a fait en début de saison, il a fini à 3 ou 4 tours. À la régulière, hein, sans accident, sans rien.
Après, faut quand même préciser que la première course à Martinsville était très particulière, puisqu'elle arrivait juste après la reprise de la pandémie et que il y avait eu pas mal de nouveautés et que beaucoup de pilotes s'étaient fait avoir en termes de réglages et de pneus avant le premier arrêt au stand et à Martinsville. Bah, tu le payes cash, tu prends 1, 2, 3 tours direct. Donc, faut quand même mettre une petite astérisque sur cette première course de Martinsville, à mon avis.
Non, je suis d'accord. Après, bon, voilà, Hamlin, on le sait, hein, ça fait partie des 2 ou 3 incontournables sur cette piste. Hein. Déjà sur short track en général et en plus à Martinsville.
Ouais, de toute façon, Hamlin, Truex, Elliott devraient jouer devant.
Ça peut être explosif entre les 3 dimanche. Hein.
Donc, avec objectif une victoire, sachant qu'Hamlin n'a pas forcément besoin d'une victoire pour aller en finale. Je veux dire, si Hamlin fait un top 5, il y va, quoi. Ah non, il peut ne pas y aller.
Ah, non, après, il faut qu'il engrange des points pendant la course sur les 10.
Non, parce que ouais, s'il finit plus de 2 places derrière Keselowski et que c'est Truex ou Elliott qui gagne, il est out.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais.
Non, faut qu'il fasse gaffe à Keselowski.
Oui, il faut qu'il fasse gaffe à Keselowski, ouais. Donc, oh, ça va, ils annoncent grand beau temps pour Martinsville. Donc, ouais, ça peut encore être explosif cette affaire. Ça peut être très très drôle puisqu'on n'a qu'un seul qualifié. Il y en a 3 qui vont se qualifier à Martinsville. Un seul avec une victoire en théorie et 2 au point. Donc, va falloir sortir la calculette tout au long de la course.
Ouais, enfin, après, oui, voilà, Harvick, c'est quasiment fait. Hein. Je vois pas comment Harvick ne pourrait passer à côté de la finale.
Bah, s'il se met dans le mur dans le premier segment, hop, c'est arrivé à Texas.
Ouais, mais après, derrière, il a combien? Il a 40, c'est 42, je crois, sur le premier non qualifié.
Ouais, 42 points, ouais.
Ah, 42 points, faudrait quand même un cataclysme. Hein.
Enfin, faudrait une victoire bonifiée, en gros. Enfin, faudrait. Non, faudrait pas forcément une victoire, mais il faudrait bien bonifier au niveau des segments aussi pour le sortir.
Ouais.
Après, on tape sur Hamlin. Je pense qu'il a quand même sorti un très bon résultat malgré les conditions à Texas, puisqu'il
Oui.
est 9e, mais qu'il a failli finir dans le mur en même temps que Harvick. Que sur le premier restart, mercredi, il creuse deux magnifiques trous dans sa calandre avant, grâce ou à cause de. C'était Bubba Wallace?
Il tape Bubba Wallace, ouais.
Oui.
Non, non, c'est Kenseth qui tape.
Je sais plus qui
Il
tape.
touche Kenseth, il va taper Wallace.
Oui, c'est ça. Il touche Kenseth. Donc là, techniquement, il peut rien faire sur cet incident-là. Il est complètement passager. C'est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je trouve que malgré tout ce qui lui est arrivé, il sort quand même une 9e place, alors que Harvick n'est que 16e.
Harvick, il a ramé tout au long de la course, hein, clairement.
Ah, complètement, ouais. Et d'ailleurs, vous parliez de cet accident entre Kenseth et Bubba Wallace. Alors, déjà, en plus d'avoir les boules d'attendre 72 heures, tu fais 10 tours, tu rentres à la maison. Ils ont bien détruit les caisses. Et c'est quoi? C'est Wallace qui va dans le mur et Kenseth qui l'a
Dans la...
détruit rien qu'en passant dans l'herbe gorgée d'eau,
Ouais.
quoi.
Ouais, ça c'est dingue. Ouais, comment il dé... Pourtant, sa voiture n'est pas très abîmée. Parce que bon, il touche Wallace pas très fort. Et ouais, il se plante littéralement dans l'herbe et détruit tout l'avant.
Ça a un peu fait penser à Edwards une année à la All-Star quand il va gagner et qu'il fait son burn et que en fait il tombe mais pile poil l'endroit où il fallait pas, il y avait une bouche d'égout et il a complètement détruit l'avant de la caisse.
Ah, c'était
Mais
une
sauf.
bouche d'égout, je croyais que c'était une canalisation, moi.
Non, je crois que c'était une bouche d'égout.
En tout cas, le résultat elle-même, la voiture n'avait pas apprécié.
Exactement. Donc bon, malheureusement, ça arrive, ce genre de choses. Et là, c'est vrai que pour Kenseth, ça a fait très mal puisque bah, il faisait une course pas forcément exceptionnelle encore une fois.
Une de
Il prend
plus,
encore
ouais.
un résultat médiocre.
C'est gentil, hein,
Je suis
médiocre.
pas sûr que les fans de Kenseth, pour le s'il y en a encore, puissent vraiment se réjouir de ce retour. Pour conclure, on pouvait être ravi de le voir quand on a su qu'il remplaçait Kyle Larson, mais quand on voit ce qu'il a fait cette saison,
Est-ce que tu dis la même chose s'il gagne à Indianapolis?
bah ouais, forcément là c'est différent.
Voilà.
Mais
Et au final, en soi.
quand on se rappelle de l'horloge que c'était quand il était chez Gibbs,
Oui, et
tu
quand
le
tu vois la
voyais pas, il
stature de
allait
lui.
chercher une 6-7e place de derrière les fagots. Là, il est nulle part. Il est nulle part.
Quand tu vois Kurt Busch, qui est quand même sa principale, enfin, son principal outil de comparaison, on va dire. Enfin, c'est quand même assez dingue. C'est vrai que Kenseth, alors ok, il passe à côté d'une victoire du côté d'Indianapolis. Il avait eu une belle course à Darlington de mémoire pour la reprise.
Ouais.
Maintenant, ça mis de côté, c'est quand même tout sauf du bon Kenseth, quoi. C'est
Bah,
quand même assez dingue, hein.
son meilleur résultat depuis Indianapolis, c'est 14e deux fois.
Quand tu t'appelles Kenseth.
Tu veux que je te dise, ça fait presque penser à Johnson, qui doit enchaîner. Là, il doit être à une 8e ou 10e course hors du top 10.
Attends, je vais te dire ça.
Mais il nous a, c'est un barbuck qui nous.
C'est un moteur, ouais, c'est un joli moteur.
Ouais, c'est un moteur, ouais.
Ouais.
Alors,
Donc. Mais lui, il a fait sa vie, il a pas créé de drapeau jaune.
Johnson n'a pas fini dans le top 10 depuis. Bah, qu'il a fait troisième à Dover, donc ça fait de Daytona à Texas. 1, 2,
À Dover.
10. Deux verres, ouais, en fin de saison régulière.
Ah
Il
oui,
fait
c'est
10
vrai.
courses, effectivement.
C'est pareil, enfin, je veux dire, Johnson-Kenseth, même combat. Hein.
Johnson, tu te demandes si c'était même pas la saison de trop.
Enfin, c'était en dents de scie, hein, en fait. Il y avait des hauts, il y avait des bas, et puis il y avait des moteurs au milieu.
On s'attendait à des belles choses suite aux premières courses de la saison, et puis après, c'est complètement retombé dans le rang, quoi.
Il y a surtout eu des bas et des très très bas, quoi. Je suis désolé, hein.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Tout Johnson qu'il est, il a beau avoir 7 titres. La saison, quand tu t'appelles Johnson, que tu es à la Hendrick, que les trois autres sont en play-off, qu'il y en a deux qui sont dans les 8, la saison, elle est calamiteuse.
Moi, je me disais la question l'autre jour, mais quel grand pilote n'a pas terminé sur une bonne note? Moi, j'ai Stewart en tête qui termine très bien sa carrière.
Gordon.
Là, j'arrive pas à voir quelqu'un qui a un grand pilote qui a terminé sur une bonne note sa carrière.
Gordon, si tu acceptes son retour dans la 88 pour des piges, il termine quand même dans le Final Four, il doit terminer 2 ou 3 du championnat.
Il finit 3, ouais.
Alors, ok, il n'y a qu'une seule victoire à Martinsville en raccro, je suis d'accord. Mais il va quand même en finale, il est quand même en play-off.
Je me souviens, cette saison, on tapait quand même pas mal sur Gordon pour ses restarts, en drôle, et qu'il était quand même une bonne tête de Turc lors de sa dernière saison, et que c'était pas exceptionnel, certes, il raccrochait les wagons au bon moment, mais quand tu compares à d'autres pilotes, c'était pas la meilleure dernière saison qu'on puisse.
Non, mais enfin, c'est pas. Si tu compares à Johnson, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu compares à Kenseth, pareil, quoi. Donc bon, après, voilà, c'est triste pour des pilotes de terminer ainsi. Mais c'est vrai que là, pour Johnson, ça fait quand même très très mal. Et il va même pas terminer meilleur des autres. Parce que là, il est à 42 points d'Eric Jones qui est 17e.
Et lui, Eric Jones finit très bien la saison. Je ne sais pas pourquoi.
Et Eric Jones a quand même pas fait une saison... exceptionnel non plus, quoi. Hormis sur la fin où ça va mieux.
Non, mais il a fait quelques coups d'éclat que Johnson n'a pas fait.
Il a quand même 9 top 5, hein, Eric Jones.
C'est et Johnson, il en a au moins, Johnson, des top 5?
Oui, il a une 3e place.
Jimmy Johnson a 4 top 5.
Oui, il a des top 5, oui. Il y a au moins Indianapolis et il y a au moins Dover. Non, pas Indianapolis, je comprends Kenseth. Il a au moins Dover.
Et Eric Jones avec 9 top 5, c'est le meilleur des autres, comme tu dis. Et c'est même mieux que Kurt Busch ou Alex Bowman.
Et les mecs sont dans les 8, quoi.
Ah, voilà. Non, mais les stats indignes pour Jimmy Johnson, quand même.
Ouais, c'est sûr.
Si on nous aurait dit ça il y a 10 ans.
Ouais, si on avait dit ça, c'est clair qu'on aurait eu peur. Hein.
Bah, il a des stats équivalentes à Tyler Reddick.
Ouais, Tyler Reddick est 42 points derrière. Donc 42 points derrière en 35 courses. Ça fait une place par course à la grosse louche. Donc oui, c'est bonnet blanc, blanc bonnet les deux. Et c'est très moche quand tu termines ta carrière ainsi. On va revenir sur la course du Texas, messieurs. On a parlé du monotrajectoire, on a parlé du Pitchewan, on a parlé de la pluie. On a parlé de Johnson, on a parlé de Kenseth. Chase Elliott, oui. On a parlé d'Harvick, c'est fait, qui termine 16e. On va peut-être rapidement donner le top 10. Kyle Busch, donc, qui s'impose devant Truex. On en a parlé. Truex, la pénalité, on en avait déjà parlé sur le podcast du début de semaine. Donc, je vous invite à le réécouter si besoin. Christopher Bell fait 3e. Belle perf du rookie.
Pour,
hein.
Pour une belle triplette, Joe Gibbs.
Oui, c'est ça. C'est belle perf. Sur la fin de course, j'y ai presque cru.
C'était le plus rapide.
Mais puis, le pack aéro est entré en jeu. Parce que je me souviens bien que, à 40 tours de la fin, il revenait comme une fusée sur Martin Truex Jr. Et puis, il n'est jamais arrivé à le passer.
Parce que Truex arrive sur quelle bouche, hein.
Une fois arrivé derrière Truex, impossible de le dépasser. Il se faisait littéralement face à un mur. Et il doit se contenter d'une 3e place. Mais c'est vrai que, possiblement, Christopher Bell avait la voiture la plus rapide et avec la meilleure position en piste pour aller rivaliser avec Kyle Busch.
C'est sûr. Donc, Ryan Blaney fait 4e devant Alex Bowman, qui, du coup, avec sa 5e place, reste encore en vie pour une qualification en play-off, enfin, en play-off pour la finale. même si ça va être, à mon sens, très compliqué. Sixième, Keselowski. Septième, Kurt Busch. Huitième, Matt Di Benedetto. Neuvième, Denny Hamlin. Et dixième, Joey Logano. Voilà un petit peu pour le top 10, avec un Logano qui est déjà qualifié, donc qui se fiche un petit peu du résultat. Et puis, c'est un ovale d'un mile et demi, mais vu que la finale n'est pas sur un ovale d'un mile et demi, bon, si tu performes pas, c'est pas non plus exceptionnel.
D'ailleurs, vous avez écouté ce top 10. Vous pouvez remonter au début du dernier segment, c'était le même top 10, à quelque chose près. Donc,
Le dernier segment, la fin du deuxième segment, Kyle Busch, Truex, Bowman, Keselowski, Blaney, Bell, et ensuite Dillon, Bowyer, Stenhouse et Harvick. Ouais, les six premiers, en fait, étaient dans le top 6 à la fin du deuxième segment.
Et Christopher Bell passe troisième parce qu'il réalise un coup de stratégie sur le dernier arrêt, en prenant aucun pneu de mémoire.
Oui, je crois que c'est ça.
Du coup, ça le fait gagner des positions avec moins de temps passé dans les stands.
Ouais, donc bon, c'est comme ça. Truex s'en sort. Au point, ça va être compliqué, mais malgré tout, il est toujours vivant. Kyle Busch, il gagne deux courses trop tard. De quoi ?
C'est une façon de le voir, oui, il gagne deux courses trop tard. Enfin, il gagne, et ça aurait été plus important pour se qualifier au tour suivant des playoffs, effectivement.
Donc du coup, messieurs, dimanche, Martinsville, si tout va bien. Martinsville, un short track, et on l'a dit, une guerre annoncée entre les pilotes qui vont devoir se qualifier avec une victoire. Si on fait le point au classement général, premier Harvick 4137 points, deuxième Hamlin 4122, troisième Keselowski 4120, quatrième Bowman 4095, cinquième Elliott 4095, sixième Logano 4094, mais qualifié, septième Truex 4084 et huitième Kurt Busch 4039. Donc hormis Kurt Busch qui est complètement à la rue, pour les autres, c'est pas encore totalement mort.
Bah, c'est pas mort techniquement. C'est pas mort pour Kurt Busch s'il gagne à Martinsville, mais il faut gagner à Martinsville.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut gagner à Martinsville. Quand je dis pour Kurt Busch c'est mort d'un point de vue mathématique, il faut une victoire. Donc voilà, ça va jouer comme ça, ça va jouer à Martinsville, sur un short track, peut-être sur un bump de Denny Hamlin sur Chase Elliott, histoire de faire chavirer la foule.
C'est arrivé plus d'une fois un bump comme ça pour chercher la victoire, hein, c'est pas.
Oui. Ah mais ça me choque pas. Ça fait partie du jeu.
Ah oui.
La poussette, non, mais la poussette c'est aussi la course.
Ils vont le pénaliser, Hamlin, et puis voilà.
Non mais enfin a priori la Gibbs se débrouille très bien toute seule pour se tirer des balles dans le pied quoi. avec des voitures non conformes.
Ah bah maintenant ils ont des prothèses de pied tellement ils se sont tirés des balles, hein, franchement.
Ah, à mon avis, ouais, ça doit être ça.
En tout cas, ce que je note, c'est que les non-qualifiés se tiennent quand même dans un mouchoir de poche.
Ah, bah là, oui.
Elliott et Martin Truex Jr. Il n'y a pas beaucoup de différence.
Ah, ouais, ça va être un beau trio à surveiller dimanche.
Y a 11 points entre les trois. Hein. Et pour l'instant, les trois ne sont pas qualifiés.
Mais en fait, il faut qu'ils attendent une erreur ou alors une contre-performance de Harvick, Hamlin ou Keselowski qui ont quand même un pied d'avance sur eux.
Alors attends, je vais te poser la question différemment. Il faut qu'ils attendent une erreur ou il faut qu'ils les poussent à la faute?
Ah, c'est au choix. Ils choisissent, hein. C'est leur problème après.
Ils vont attendre l'erreur en début de course et ils provoqueront la faute en fin de course.
Oui, voilà, parce qu'après, les pousser à la faute, c'est pas forcément les mettre dans le mur. Hein. C'est aller mener, c'est être devant et leur faire comprendre que eux aussi sont là pour jouer et que eux aussi tiennent la pression. Et Truex sur short track depuis 2 ans, c'est quand même excellent, ça gagne pas à tous les coups mais ça gagne souvent. Maintenant qu'il a compris comment on gagnait sur le short track, ça fait peur.
Elliott est pas mauvais non plus sur short track.
Oui.
Bowman
c'est le facteur X.
Mais quand tu compares à des Keselowski, des Hamlin, des Harvick, en général, sur short track, tu peux les retrouver dans le top 5 si ce n'est dans le top 10.
Oui, mais pour moi, Bowman sera le facteur X sur cette course. Capable de nous sortir un résultat alors qu'on ne l'attend pas forcément.
Après, c'est vrai que depuis le début des playoffs, il est quand même assez excellent. Il reste du coup sur 3 top 10 consécutifs. À Charlotte, donc sur un circuit routier. Et Kansas, Texas, des ovales d'un mile et demi. Et si on remonte un peu plus loin, Richmond, c'était une 9e place. Et Darlington, c'était 6e.
Je crois qu'il a fait tous les playoffs dans le top 10, hein, Alex Bowman. Il ne cherche pas. Hein.
Non, non, non. 16e non. À Bristol et 14e à Talladega.
Ah, pardon.
Ce qui est quand même un bon résultat.
Ah non, pardon, il a 8 top 10 sur les 10 dernières courses. Ou 9 sur les 11. Un truc dans le genre.
Pour remonter à Dover, t'as que 2 résultats qui sont pas dans le top 10.
Ouais, c'est ça.
Par deuxième course de Dover.
Ouais. Donc, non, c'est plus que correct. Alors, messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour du Texas, vu qu'il ne s'est rien passé, et de Martinsville, où il ne s'est pas encore passé quelque chose. On va pouvoir aborder un petit peu les actualités, parce que là, je vois Lilian qui trépigne. Ça y est, c'est fait, il est content. Aloïs, beaucoup moins. Aloïs, il est en train de brûler tous ses t-shirts.
Et il faut qu'il change son tatouage, surtout.
Oui, c'est ça.
Lequel ?
C'est dommage, hein, c'est confinement, donc pas de tatouage à mon avis avant 2021.
Oh. Ça tombe bien.
Il ne pourra pas prendre la voiture après le 1er janvier.
Oh, c'est tu fait. Poses des fesses sur, sur le four, ça fonctionne, c'est pareil. Hein, je crois, ça fonctionne aussi, non ?
Monsieur a des goûts douteux. Kyle Larson qui signe à la Hendrick Motorsports. Allez, pour la peine, et vraiment parce que ça me fait plaisir, je commence par Aloïs.
Ah.
Bah moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que le numéro 5 est de retour en cap.
Bah ouais, c'est vrai.
Ah ouais, c'est bien résumé.
Wow, ça fait des semaines qu'on en parle. Franchement, il n'y a aucune surprise. La campagne marketing était menée à la perfection. Kyle Larson réapparaît sur à peu près tous les réseaux sociaux d'un coup. Pouf. Ah, salut, je suis de retour. Vous m'avez oublié depuis 6 mois, mais je suis bien là. Et je reviens.
Le mec, il disait, ouais, non, il peut encore y avoir une surprise, c'est pas fait. Et
puis comme là, la NASCAR avait besoin de faire parler un peu d'elle, parce qu'il ne savait plus quoi dire, à part montrer des sécheuses sur la piste du Texas. Ouais. C'est dit, oh, bah tiens, allez, c'est bon, la news, on la sort maintenant.
C'est un truc de dingue, quand même. C'est bien fait. Hein. Et puis, c'est sur la semaine de Martinsville, comme on l'avait évoqué, une piste de la Hendrick. Enfin, de la Hendrick.
Oui.
Pour la Hendrick, ouais. C'est bien fait. On retrouve le numéro 5, qui a quand même un numéro emblématique à la Hendrick. N'en déplaise à tous les fans du 88. Donc voilà, c'est très, très bien. On aura le 5, le 9 l'année prochaine, le 24 et le 48. C'est pas mal.
Après, comme tu dis, hein, c'est une nouvelle qui n'en est pas une, hein, de toute manière. Ouais, c'était le seul baquet qui restait à pourvoir, en tout cas, baquet de qualité.
Oui, t'allais pas mettre un Corey Lajoie dans ce baquet.
Bah, je voyais mal Rick Hendrick parier sur Corey Lajoie.
C'est une façon de le dire, comme quoi il n'y avait pas de pilote du pedigree autre que Kyle Larson pour remplir le baquet qui restait.
Et donc, du coup, l'équipe 48 de cette année deviendra l'équipe 5 de l'année prochaine. Et l'équipe 88 de cette année deviendra l'équipe 48 l'année prochaine. Et comme dit hein, Kyle Larson, en fait, c'est l'officialisation d'un secret de Polichinelle.
On a un temps cru à Brad Keselowski. Keselowski a re-signé chez Penske pour une saison. Finalement, ce sera Kyle Larson.
On va pas se mentir, mais je pense que la silly season... l'année prochaine à la Penske risque d'être encore une fois très croustillante.
Et petite info, vas-y.
Ouais, parce qu'il y a du monde. Il y a Matt Di Benedetto qui va gicler. Il y a Cindy qui va monter à la Woods à temps complet, je crois.
Mm-hmm. T'as Keselowski du coup qui arrive en fin de contrat, encore.
Encore, ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Keselowski ?
Est-ce qu'il prend sa retraite ? Est-ce que Di Benedetto monte dans la 2 ? Est-ce que
Keselowski va dans la 24.
Pardon ?
Je dis que Keselowski va aller chez Hendrick.
En remplacement de Byron, du coup.
Ouais, bon, Byron, Je trouve que ça met un peu trop de temps à éclore. Ouais, moi, je le vois bien sauter, malheureusement, et mettre Keselowski en pilote d'expérience pour former les petits jeunes, ouais.
Tu vois, moi, Keselowski, je le vois plus partir à la retraite qu'autre chose, parce que ça fait quand même bientôt 15 ans qu'il écume la Cup.
J'en sais rien.
Quand on voit de plus en plus de pilotes partir de plus en plus tôt à la retraite, ça me surprendrait pas. Mais en tout cas, pour revenir sur l'actualité de la semaine, Kyle Larson, prochain prétendant au titre.
Ah bah, il sera attendu, clairement.
Il sera attendu. Après, vu le niveau de la Hendrick, parfois très, comment dire, très disparate d'une course à l'autre.
Et aussi étonnant que cela disparaisse, ce sera le plus âgé des quatre, à 28 ans.
Oui. Et petite question comme ça, sur les ovales à plaques, enfin, Daytona est à la dégâts, puisque c'est plus des plaques. Qui bosse avec qui chez Hendrick?
Bah déjà, qui est déjà ce qu'ils bossent ensemble habituellement?
Oh, quand même, ces dernières saisons, oui.
Oh.
Un peu plus.
Oui, voilà, un peu plus. C'est pas du niveau de la Penske ou de la Gibbs. Qui bosse avec qui?
Bah, qui fout l'autre dans le tas? Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une belle guerre d'ego, qu'on le veuille ou non, entre Elliott et Larson, à mon sens.
Tu penses?
Ah, bah, quand
je pense
même.
Que Larson va se faire tout petit après ce qui s'est passé cette année. Hein.
Ah, mais quand je dis guerre d'ego, c'est sur la piste, hein, pas forcément. En termes de popularité ou de d'apparition médiatique, etc. Ce sera qui est le pilote numéro 1 sur la piste.
Ouais, peut-être. Avec un Bowman en arbitre.
Ah, c'est fort possible. Quand on voit comment ça a tourné entre Keselowski, Logano à la Penske, par exemple, entre j'allais dire Kyle Busch et Martin Truex Junior, mais plutôt cette année entre Martin Truex et Denny Hamlin. C'est pas des guerres à couteau tiré, mais il y a quand même des rivalités qui existent au sommet des plus grandes équipes.
C'est vrai.
On verra ça. On verra ça. Rendez-vous en février, du coup, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette fin de semaine? Si, quand même, Kyle Larson va pouvoir continuer à faire des courses de dirt track. Rick Hendrick, lui a donné l'accord.
Vous le voyez venir, qu'il est en lice pour le titre et qu'il se fait une blessure en dirt track au cours de saison, alors qu'il était la belle révélation de la saison, qu'il s'était fait pardonner, c'était la belle histoire et qu'il était en lice pour le titre et bam, une blessure sur une course de World of Outlaws en milieu de semaine.
Ouais, ça serait quand même dommage. Après, voilà, il devrait en faire.
Mais peut-être ouais, un calendrier
mais
partiel.
Pas trop ouais. Non plus, quoi. Donc, après, c'est vrai que cela dit, vu que les courses de World of Outlaws sont le vendredi et le samedi, et que les courses de Cup sont majoritairement le dimanche, bon, et que tout se fait sur une journée, il y a peut-être moyen de pouvoir enchaîner un petit peu.
Mais bon, par contre, il y a une info qu'on n'a pas, c'est les sponsors qu'il va avoir pour cette saison 2021.
Ça sera annoncé ultérieurement.
Voilà.
Traduction, on ne les a pas encore.
On ne les a pas encore. Après, tu vois, retour de la 5, est-ce qu'on ne travaillerait pas sur un retour genre de Kellogg's
tu vois, parce que Kellogg's, Kellogg's, on les voit même plus.
Bah non.
Je me rappelle. Bah non.
Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de sponsor d'annoncer.
Mais ceci dit, Kellogg's, dans une équipe où il n'y a que des jeunes pilotes,
ça marche. Puis, enfin, je veux dire, Kellogg's avec Mountain Dew, avec...
Ouais, je mélange pas qu'est-ce Kellogg's avec Mountain Dew, tu vois. Hein.
Avec Hooters et compagnie. Non, mais enfin, ça reste dans la dynamique de montrer, enfin, de faire du placement marketing auprès des jeunes.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, c'est pas Rick Hendrick qui boit du Mountain Dew ou qui va manger chez Hooters.
Et Byron, qui est sponsorisé par une université, certes, ouais. Très catholique et très peu recommandable, mais une université.
L'université quand même, c'est ça. Mais bon, après, c'est le côté puritain américain qui rentre en ligne de compte avec les sponsors de Byron. Enfin, comme on l'a déjà dit et redit, la NASCAR est très, très conservatrice, très à droite. C'est tout sauf une surprise. Est-ce qu'il vaut mieux Liberty University comme sponsor ou NRA, tu vois, après, on peut rentrer dans ce genre de débat-là aussi. Je pense que vaut peut-être mieux du catholique que du pro-arme. Après, ce n'est que mon avis. Il y en a qui me diront peut-être le contraire.
Et là, je viens de voir, juste par curiosité, que le sponsor de Alex Bowman au Texas, donc Acronis, était un logiciel de sauvegarde sur cloud. Donc, encore un truc plus adéquat avec les jeunes qu'autre chose.
Ouais, c'est ça. Et juste pour terminer la page Hendrick, William Byron, son équipe est positive au coronavirus, donc ils seront absents. Mais William Byron sera bel et bien présent. Voilà, je n'ai pas plus d'infos pour l'instant, savoir qui sera dans les stands de la Hendrick Motorsports. Il y a peut-être une possibilité de construire une équipe de mécanos avec ceux de la JR Motorsports qui ne seraient pas déjà des mécaniciens de la Hendrick.
Je crois avoir lu plutôt, que ce serait...
Ah non, c'est la 47, pardon. C'est la 47. 47. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe de la 47, pardon. Donc la 47, donc ça veut dire que...
Stenhouse.
C'est Stenhouse qui se retrouve sans mécano.
Peut-être que lui va taper dans ceux de la 37.
Ouais, enfin, après, ça commence à devenir après très très compliqué.
Pour finir dernier, c'est pas grave. Hein.
en fait, il va arriver dans les stands, il va se détacher, il va aller faire le ravitaillement lui-même, quoi.
Oh, ça va pas changer beaucoup d'habitude. Hein.
Dernier, c'est dernier. Hein.
Voilà un petit peu, messieurs, pour les infos. Je pense qu'on a réellement fait tout le tour du Texas et de Martinsville. On va se donner rendez-vous, du coup, maintenant, la semaine prochaine, à une heure un peu plus habituelle.
En principe.
Pour un nouveau podcast qui fera le débrief de Martinsville, cette fois-ci. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis, bon week-end de course avec la Truck Life à Martinsville. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Bonne fin de semaine et bon week-end de course.
Bon week-end de course à tous.